Guillaume parle à Azzo du grand fleuve hérétique, de la fonction des simples dans l'Église, de ses doutes sur la possibilité de connaître des lois générales, et presque incidemment raconte comment il a déchiffré les signes nécromantiques laissés par Venantius. Je trouvais Guillaume dans la forge, qui travaillait avec Nicolas, l'un et l'autre fort absorbés par leur ouvrage. Ils avaient disposé sur l'établi quantité de minuscules disques de verre, sans doute déjà prêts à être insérés dans les jointures d'un vitrail, et ils en avaient réduit quelques-uns avec les instruments appropriés à l'épaisseur voulue. Guillaume les essayait en se les mettant devant les yeux. Nicolas, de son côté, donnait des dispositions aux forgerons pour qu'ils construisissent la fourche où les bons verres devraient ensuite être enchâssés. Guillaume bougonnait, irrité parce que, jusqu'à présent, le verre qui le satisfaisait le mieux était couleur émeraude et lui, disait-il, il ne voulait pas prendre les parchemins pour des prairies. Nicolas s'éloigna pour surveiller les forgerons. Tandis qu'il se démenait avec ses petits disques, je racontais à Guillaume mon dialogue avec Salvatore. « L'homme a eu différentes expériences, dit-il. Peut-être a-t-il réellement été avec les Dolciniens. Cette abbaye est un vrai microcosme. Quand nous aurons ici les légats de pape Jean et frère Michel, nous serons vraiment au complet. « Maître, lui dis-je, moi, je ne comprends plus rien. À propos de quoi, Azzo ? D'abord au sujet des différences entre groupes hérétiques, mais cela je vous le demanderai après. Maintenant je suis affligé du problème même de la différence. J'ai eu l'impression qu'en parlant avec Hubertin, vous tentiez de lui démontrer qu'ils sont tous égaux, saints et hérétiques. Et au contraire, en parlant avec l'abbé, vous vous efforciez de lui expliquer la différence entre hérétique et hérétique, et entre hérétique et orthodoxe. En somme, vous reprochiez à Hubertin de considérer comme différents ceux qui, au fond, étaient égaux, et à l'abbé de considérer comme égaux ceux qui, au fond, étaient différents. » Guillaume posa un instant les verres sur la table. « Mon bon Azzo, dit-il, cherchons à poser des distinctions, et distinguons donc dans les termes des écoles de Paris. « Alors, disent-ils là-haut, tous les hommes ont une même forme substantielle, ou je me trompe ?»« Certes, dis-je. Fier de mon savoir. Ce sont des animaux, mais rationnels, et leur propre est d'être capable de rire. Fort bien. Pourtant, Thomas est différent de Bonaventure, et Thomas est gros, tandis que Bonaventure est maigre. Et il peut même arriver que Uguccione de Lodi soit méchant, tandis que François d'Assise est bon, et Aldemaro est flegmatique, tandis que Agilulfo est bilieux. Ou non ? Aucun doute, c'est ainsi. Et alors cela signifie qu'il y a identité en des hommes différents quant à leur forme substantielle et différence quant aux accidents, autrement dit, quant à leur terminaison superficielle. À coup sûr, il en va ainsi. Et alors quand je dis à Hubertin que la nature même de l'homme, dans la complexité de ses opérations, préside tant à l'amour du bien qu'à l'amour du mal, je cherche à convaincre Hubertin de l'identité de la nature humaine. Quand ensuite je dis à l'abbé qu'il y a différence entre un cathare et un vaudois, j'insiste sur la variété de leurs accidents. Et j'insiste parce qu'il arrive qu'on brûle un vaudois en lui attribuant les accidents d'un cathare et vice-versa. Et quand on brûle un homme, on brûle sa substance individuelle et on réduit à pur néant ce qui était un acte concret d'exister, en cela même bon, au moins aux yeux de Dieu, qui le maintenait à l'être. Cela ne te semble-t-il pas une bonne raison pour insister sur les différences ? « Si, maître, répondis-je avec enthousiasme, j'entends bien pourquoi vous parlez de la sorte et j'apprécie votre bonne philosophie. » « Ce n'est pas la mienne, dit Guillaume, et je ne sais pas même si c'est la bonne. Mais l'important, c'est que tu aies compris. Voyons à présent ta seconde question. C'est que, dis-je, je crois être un bon à rien. Je ne parviens plus à distinguer la différence accidentelle entre vaudois, cathare, pauvre de lion, humilié, béguin, bougre, lombard, joachimite, patarin, apostolique, pauvre de Lombardie, disciple d'Arnaud, de Guillaume, disciple du libre-esprit et luciférien. Comment m'y prendre ? Oh, pauvre Azzo ! Rit Guillaume en me donnant une petite tape affectueuse sur la nuque. Tu n'as point tort, sais-tu. Tu vois, comme si dans les deux derniers siècles et encore avant, notre monde avait été parcouru par des souffles d'intolérance, espérance et désespérance tout ensemble. Ou bien non, ce n'est pas une bonne analogie. Pense à un fleuve, dense et majestueux, qui coule sur des milles et des milles entre les digues robustes. Et tu sais où est le fleuve, où la digue, où la terre ferme. À un certain point, le fleuve, de lassitude, parce qu'il a coulé pendant trop de temps et sur trop d'espace, parce que s'approche la mer, qui annule en soi tous les fleuves, ne sait plus ce qu'il est. Il devient son propre delta. Il reste peut-être un bras majeur, d'où beaucoup d'autres se ramifient dans toutes les directions, et certains reconfluent les uns dans les autres, et tu ne sais plus ce qui est à l'origine de ce qui est, et parfois, tu ne sais plus ce qui est fleuve encore, et ce qui est déjà mer. Si je comprends bien votre allégorie, le fleuve est la cité de Dieu, ou le royaume des justes, qui s'approche du millénaire, et dans cette incertitude, il ne tient plus dans ses digues. Naissent de faux et de vrais prophètes, et tout conflue dans la grande plaine où aura lieu l'Armageddon. Je ne songeais pas précisément à cela. Mais il est vrai aussi que chez nous, franciscains, l'idée d'un troisième âge et de l'avènement du règne de l'Esprit-Saint est toujours vive. Non, je cherchais plutôt à te faire entendre comment le corps de l'Église, qui a été aussi pendant des siècles le corps de la société tout entière, le peuple de Dieu, est devenu trop riche et dense, et entraîne avec lui les scories de tous les pays qu'il a traversés, et a perdu sa pureté première. Les bras du delta sont, si tu veux, autant de tentatives du fleuve de courir le plus vite possible vers la mer, autrement dit, vers le moment de la purification. Mais mon allégorie était imparfaite. Elle servait seulement à te dire combien les bras de l'hérésie et des mouvements de renouvellement, quand le fleuve ne tient plus, sont nombreux et se confondent. Tu peux même ajouter à ma piètre allégorie l'image de quelqu'un qui tente de reconstruire de vive force les digues du fleuve, mais sans succès. Et quelques bras du delta sont peu à peu enterrés, d'autres ramenés au fleuve par des canaux artificiels, d'autres encore on les laisse couler, parce qu'on ne peut pas tout retenir, et qu'il est bon que le fleuve perde une partie de son eau s'il veut se garder intègre dans son cours, s'il veut avoir un cours reconnaissable. Je comprends de moins en moins. Moi aussi. La parabole n'est pas mon fort. Oublie cette histoire de fleuve. Cherche plutôt à comprendre comment il se fait que beaucoup des mouvements que tu as nommés sont nés il y a au moins 200 ans et sont déjà morts, et que d'autres sont récents. Mais quand on parle d'hérétiques, on les met tous dans le même panier. C'est vrai, mais c'est là un des modes de diffusion de l'hérésie et un des modes de sa destruction. Je ne comprends plus de nouveau. Mon Dieu, que c'est difficile. Bon, mets-toi dans la peau d'un réformateur des mœurs. Tu réunis une poignée de compagnons sur la cime d'un mont pour vivre dans la pauvreté. Et peu après, tu vois que beaucoup viennent à toi, même de terres lointaines, et te considèrent comme un prophète ou un nouvel apôtre, et te suivent. Viennent-ils vraiment pour toi ou pour ce que tu dis? Je ne sais pas, je l'espère. Pourquoi sinon? Parce qu'ils ont entendu de la bouche de leur père des histoires d'autres réformateurs et des légendes de communautés plus ou moins parfaites, et ils pensent que celle-ci est celle-là et celle-là celle-ci. Ainsi, tout mouvement hérite des enfants d'autrui. Certes, parce qu'y affluent en grande partie les simples, qui n'ont pas de finesse doctrinale, et pourtant les mouvements de réforme des mœurs naissent en des lieux différents, de façon différente, et prennent leurs racines dans différentes doctrines. Par exemple, on confond souvent les cathares et les vaudois. Mais entre eux, c'est le jour et la nuit. Les vaudois prêchaient une réforme des mœurs à l'intérieur de l'Église. Les cathares prêchaient une Église différente, une vision de Dieu et de la morale différente. Les cathares pensaient que le monde était divisé entre les forces opposées du bien et du mal, et ils avaient constitué une Église où l'on distinguait les parfaits des simples croyants, et ils avaient leurs sacrements et leurs rites. Ils avaient établi une hiérarchie très rigide, presque dans la même mesure que notre Sainte Mère l'Église, et ils ne songeaient nullement à détruire toute forme de pouvoir. Ce qui t'explique pourquoi des hommes de commandement, des gros propriétaires, des feudataires, adhérèrent aux cathares. Ils ne songeaient pas non plus à réformer le monde, parce que l'opposition entre bien et mal pour eux ne pourra jamais se réduire. Les Vaudois, au contraire, et avec eux les disciples d'Arnaud ou les pauvres de Lombardie, voulaient bâtir un monde différent, sur un idéal de pauvreté. Ils accueillaient ainsi les déshérités et vivaient en communauté du travail de leurs mains. Les cathares refusaient les sacrements de l'Église, pas les vaudois, qui refusaient seulement la confession auriculaire. Mais alors pourquoi les confond-on et en parle-t-on comme de la même malplante? Je te l'ai dit, ce qui les fait vivre, c'est aussi ce qui les fait mourir. Ils s'enrichissent de simples, qui ont été stimulés par d'autres mouvements et qui croient qu'il s'agit toujours du même mouvement de révolte et d'espérance. Et ils sont détruits par les inquisiteurs, qui attribuent aux uns les fautes des autres. Et si les sectateurs d'un mouvement ont commis un crime, ce crime sera attribué à chacun des sectateurs de chacun des mouvements. Les inquisiteurs ont tort selon la raison, parce qu'ils assemblent dans le même fagot des doctrines contrastantes. Ils ont raison selon le tort des autres, car dès l'instant où naît un mouvement, des disciples d'Arnaud, par exemple, dans une ville, y convergent aussi ceux qui auraient été ou avaient été cathares ou vaudois ailleurs. Les apôtres de Fra Dolcino prêchaient la destruction physique des clercs et des seigneurs et commirent quantité de violences. Les vaudois sont contraires à la violence, et les fraticelles aussi. Mais je suis certain qu'au temps de Fra Dolcino convergèrent dans son groupe beaucoup de ceux qui avaient déjà suivi la prédication des fraticelles ou des vaudois. Les simples ne peuvent pas choisir leur hérésie, Adso. Ils s'agrippent à qui prêche dans leur contrée, qui passe par le village ou traverse la place. C'est sur cela que tablent leurs ennemis. Présenter aux yeux du peuple une seule hérésie qui ira même jusqu'à conseiller tout à la fois et le refus du plaisir sexuel et la communion des corps, c'est de bonnes règles pour un prédicateur. Parce qu'on montre les hérétiques comme un unique embrouillamini de diaboliques contradictions qui offensent le sens commun. Il n'y a donc pas de rapport entre eux, et ce n'est que par ruse du démon qu'un simple, qui eût voulu être joachimite ou spirituel, tombe entre des mains de cathares ou vice-versa? Eh non, il n'en va pas ainsi. Essayons de recommencer du début, Adso, et je t'assure que je tente de t'expliquer quelque chose dont moi non plus, je ne crois pas posséder la vérité. Je pense que l'erreur est de croire que d'abord vient l'hérésie, et ensuite les simples qui s'y donnent et s'y damnent. En vérité, vient d'abord la condition des simples, et ensuite l'hérésie. Et comment cela? Tu as une vision claire de la construction du peuple de Dieu. Un grand troupeau, des brebis bonnes et des brebis méchantes, surveillées par des matins, des guerriers, autrement dit, le pouvoir temporel, l'empereur et les seigneurs, sous la houlette des pasteurs, les clercs, les interprètes de la parole divine. L'image est limpide. Mais elle n'est pas vraie. Les pasteurs luttent avec les chiens, car chacun des deux parties veut les droits de l'autre. C'est vrai. Et c'est cela précisément qui rend la nature du troupeau imprécise. Perdus comme ils le sont, à se déchirer tour à tour, chiens et pasteurs n'ont plus cure du troupeau, dont une part reste exclue. Comment exclue? En marge. Les paysans ne sont pas des paysans, parce qu'ils n'ont pas de terre ou parce que celle qu'ils ont ne les nourrit pas. Les citadins ne sont pas des citadins, parce qu'ils n'appartiennent ni à un art ni à une autre corporation. Ils sont le menu peuple, la proie de tous. Tu as vu parfois dans les campagnes des groupes de lépreux? Oui, une fois j'en vis 100 ensemble. Difformes, la chair en décomposition et toute blanchâtre, sur leurs béquilles, les paupières enflées, les yeux sanguinolents, ils ne parlaient ni ne criaient, et ils couinaient comme des rats. Ils sont pour le peuple chrétien les autres, ceux qui se trouvent en marge du troupeau. Le troupeau les hait, eux haïssent le troupeau. Ils nous voudraient tous morts, tous lépreux comme eux. Oui, je me rappelle une histoire de roi Marc qui devait condamner Isolde la Belle et la faisait monter sur le bûcher. Quand arrivèrent les lépreux qui dirent au roi que le bûcher était une peine bien légère et qu'il en existait une bien plus lourde. Et ils lui crièrent « Donne-nous, Isolde, qu'elle nous appartienne à nous tous. Le mal allume nos désirs. Donne-la, tes lépreux. Vois, noire de colle à nos plaies qui suintent, elle qui auprès de toi prenait plaisir aux riches étoffes doublées de verre et de bijoux. Quand elle verra la cour des lépreux, quand elle devra entrer dans nos masures et se coucher avec nous, alors elle reconnaîtra vraiment son péché et regrettera ce beau feu de ronces. » Je vois que pour être un novice de Saint-Benoît, tu n'en as pas moins de curieuses lectures, railla Guillaume. Et moi je rougis, car je savais qu'un novice ne devrait pas lire des romans d'amour, mais entre nous, jeunes gars, ils circulaient au monastère de Melk et nous les lisions la nuit à la lumière d'une chandelle. « Peu m'importe, » reprit Guillaume, « tu as saisi ce que je voulais dire. » Les lépreux exclus voudraient entraîner tout le monde dans leur ruine. et ils deviendront d'autant plus méchants que tu les excluras davantage. Et plus tu te les représentes comme une cour de lémures qui veulent ta ruine, plus ils seront exclus. » Saint François le comprit parfaitement, et son choix premier fut d'aller vivre parmi les lépreux. Point ne change le peuple de Dieu si on ne réintègre dans son corps les émarginés. Mais vous parliez d'autres exclus. Ce ne sont pas les lépreux qui composent les mouvements hérétiques. Le troupeau est comme une série de cercles avec un seul centre, depuis les plus larges distances du troupeau jusqu'à sa périphérie immédiate. Les lépreux sont le signe de l'exclusion en général. Saint François l'avait compris. Il ne voulait pas seulement aider les lépreux, car son action se serait réduite à un acte de charité impuissant. Il voulait dire autre chose. T'a-t-on raconté son prêche aux oiseaux ? Ah oui, j'ai entendu cette très belle histoire, et j'ai admiré le saint qui jouissait de la compagnie de ces tendres créatures de Dieu, dis-je avec grande ferveur. Eh bien, on t'a raconté une histoire fausse, autrement dit, l'histoire que l'ordre est en train de reconstruire aujourd'hui. Quand François parla au peuple de la ville et à ses magistrats, et qu'il vit que ceux-ci ne le comprenaient pas, il sortit vers le cimetière et se mit à prêcher aux corbeaux et aux pies, aux éperviers, à des oiseaux de proie qui se nourrissaient de cadavres. « Quelle horreur ! » dis-je. Il ne s'agissait donc pas de doux passereaux. C'étaient des oiseaux de proie, des oiseaux exclus, comme les lépreux. François pensait sûrement à ce verset de l'Apocalypse qui dit « Je vis un ange debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent à travers le ciel. « Venez, ralliez le grand festin de Dieu. Vous y avalerez chair de roi et chair de grand capitaine, et chair de héros, et chair de chevaux avec leurs cavaliers, et chair de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands. » François voulait-il donc inciter les exclus à la révolte ? Non, ce fut plutôt l'œuvre de Dolcino et des siens. François voulait rappeler les exclus, prêts à la révolte, pour faire partie du peuple de Dieu. Pour recomposer le troupeau, il fallait retrouver les exclus. François n'a pas réussi, et je te le dis avec amertume. Pour réintégrer les exclus, il devait agir à l'intérieur de l'Église. Pour agir à l'intérieur de l'Église, il devait obtenir la reconnaissance de sa règle, dont il sortirait un ordre, et un ordre, comme il arriva, aurait recomposé l'image d'un cercle au bord duquel se trouvent les exclus. Et alors tu comprends maintenant pourquoi il y a les bandes de fraticelles et des joachimites qui rassemblent aujourd'hui autour d'eux les exclus, une fois de plus.